Et on passe à la dernière partie de l'émission consacrée à l'encre qui fait la lumière sur le cinéma juste après un court jingle.
Martine, ne faites jamais confiance à ces intellectuels avec leurs plumes baveuses. Ils écrivent n'importe quoi. Ce qui compte, c'est d'y voir clair. Stabilo!
Pourquoi dites-vous, dans votre préface, André Bazin nous manque?
Stabilo!
Vous dites d'ailleurs que c'est plus un critique, un écrivain de cinéma.
Regardez par exemple, ce livre. On voit tout de suite qu'il est nul. Il n'y a rien de stabiloté.
Et cette tâche?
Alors que là, j'ai tout stabiloté.
T'as vu cette tâche?
Ça, c'est un bon livre. C'est du lourd.
Alors Élie, qu'est-ce qu'on stabilote aujourd'hui?
Eh bien, on stabilote un texte du cinéaste français Bruno Dumont, édité en introduction du numéro qui lui était consacré en 2001 dans la collection Cinéma et Fiction de l'édition d'Ivoire. Bruno Dumont, c'est, souvenez-vous, l'auteur du film Jeanne, dont nous parlions dans le numéro précédent de l'émission, mais aussi de La vie de Jésus, de L'humanité, d'Or Satan, ou plus récemment de Malout, et des séries Petit Quinquin et Coincoin et les Inhumains. Il est à coup sûr un réalisateur à contre-courant de la production française contemporaine et porte depuis ses premiers longs-métrages une vision personnelle, souvent déstabilisante, du cinéma comme art de la forme qui conjugue les parts spirituelles et animales de l'humain. Le cinéma comme art premier, c'est ce qu'il défend dans le texte qui nous intéresse aujourd'hui, qui rassemble sous forme de notes, de mots d'ordre et d'intuitions poétiques et philosophiques ce qui pourrait être un manifeste du cinéma façon Bruno Dumont.
Été 2000. Repérage pour The End. Voilà un tronc mort dans le désert de Joshua Tree en Californie. Suis à préparer un long métrage. L'ai écrit durant des mois. Beaucoup d'heures passées devant le PC à attendre que ça vienne. Écriture lente, atermoyante. Tout doit venir du dessin. Giacometti. Suis d'abord écrivain, modeste et provisoire. Tout à l'expression, dans les mots, d'état, d'être et de paysage. Invente un récit où des individus s'affrontent. Histoire banale ou neutre, pas importante. Seul compte son remuement pour que les personnages s'abordent et se révèlent. Écrit là toujours sur le seul angle et espoir de la littérature et non du cinéma. Suit tout à l'expression d'un art excluant tout autre. Le cinéma n'a rien à faire de l'écrit, il est un art propre. Je n'essaie jamais de filmer ce que j'écris parce que cela ne se filme pas. Je n'adapte rien, je n'espère rien. Je réside dans l'écrit en attendant pour exprimer, par cette voix, un propos. Puis, je m'en débarrasse. Je régresse et vais me taire. Début du cinéma. Je m'affranchis de tous les mots, des dialogues même. Entendre ou voir à l'écran ce qui a été écrit n'est plus supportable. Le cinéma est une autre matière et il ne fera pas suite à l'écrit. Il est écriture même. Le cinéaste se tait, il est à l'œuvre dans le silence qui précède l'écrivain. Muet. Il est sauvage. Il va là où tout commence, à la vie même, à sa matière. C'est la capacité du cinéma que d'être un art premier. Il est capable de finir là où la littérature débute, d'être et de se borner à la représentation de la matière même de nos existences, c'est-à-dire de nos corps, à l'incarnation. Le corps est le commencement de l'âme, la matière première et la substance du cinéma. Le sensible est la cause du conceptuel, le corps est la cause de l'âme et la précède dans l'intellect. Philoxène de Mabourg. Le cinéma est métaphysique. Il réside aux fondements et principes de la condition humaine, à l'existence terrestre. Alors je filme le commencement des êtres, leur début. Je filme des corps, vivants, animés, qui s'attirent, se révulsent. Je suis à leur visage. Me borne à filmer le sensible, le visible. Je filme la terre et les arbres, le vent. L'efface. À force, c'est de l'invisible qui apparaît. L'invisible ne se filme pas. La cinématographie est inhumaine. Elle précède les autres arts. Elle est commencement même du monde, la matière de nos vies. Elle est inhumaine parce qu'elle va au seuil de la condition. Elle est à l'expression de nos premiers essors, des mouvements de nos vies. Elle est la vie même, présente et représentée. Voilà peut-être ce qu'est le cinéma et ce qu'il peut. Il faut s'y borner. Et ne pas penser que le cinéma est capable de tout rendre de notre condition. Sa puissance, c'est sa limite, à n'exprimer que nos élans. Là où le cinéma s'arrête, commence le spectateur. Le cinéma plus le spectateur égale 1. L'humilité du cinéaste est celle de son art bien compris, son imperfection, qui ne supporte aucune vanité et exige, pour donner sa puissance, tous les renoncements. La quête de la vérité est bien un vain mot de l'esprit et dont le cinéma, art modeste, sait... Quoi ? donner à voir, à ressentir, l'orifice. La seule vérité est celle de la durée du plan, c'est-à-dire du rythme du film lui-même, l'exposition et le remuement des corps, des visages, dans le temps. Le reste est fadaise. La littérature est civile, le cinéma non. Il est mythique, il raconte comment nous sommes parvenus à être. C'est tout, pas plus. En filmant le désert, c'est un morceau de l'homme que je filme. Au cinéma, les paysages sont toujours ceux des états intérieurs qui, eux, demeurent invisibles. D'où la représentation au cinéma, c'est-à-dire l'art lui-même, l'accès par d'autres voies. Je vole ce tronc d'arbre et je me l'accapare pour les besoins mystiques du cinéma. Ici, ce sont des photos prises lors du second repérage en Californie en août 2000. Je ne cherche pas, je trouve. Idem. Je tourne, toujours avec l'existant, ne modifiant rien, prenant ce qui est là, dans son état. Je suis un adepte du ready-made. Le repérage est un acte essentiel où je me débarrasse des représentations venues à l'esprit lors de l'écriture et qui n'existent pas dans la réalité. Elles sont ainsi provisoires et ne durent jamais longtemps. Elles servent à désigner les objets. Et il en va des acteurs comme des décors. Tout doit disparaître. Toute idée doit disparaître. Retourner à la matière, aux masses informes et primitives de notre sensibilité. Pas de décor, pas de dialogue, pas de scénario. Retourner à ce qui les précède. Le cinéma est un art premier. Les repérages successifs, sans appareil d'abord, servent à renverser l'emprise de l'auteur et de son utopie, lui imposer la réalité vue comme l'objet de son désir. C'est elle qui l'inverse, le retourne, l'auteur, comme saisie fatale de la matière même. Il faut ainsi y passer énormément de temps, être sur les lieux, à attendre que cela vienne. Vouloir ce qui arrive, adage stoïcien. À force, le découpage, cadre, axe, apparaîtra de lui-même. Le cinéma, la mise en scène, passe par ce désapprentissage. La mise en scène est une assaise, amour de la sagesse. Tous les travaux préparatoires, écriture, repérage, casting, acteur, casting technicien, découpage, essai, sont autant d'exercices visant à être, sur le plateau, en salle de montage, en état. La mise en scène doit s'engager dans cette condition quasi visionnaire où l'extase souvent me semble si proche. Il faut être prêt. Être réalisateur, ce n'est pas créer des images, mais les changer en les filmant. L'acteur est incarnation, il est de lui-même, la matière du personnage, son possible. Le personnage doit disparaître, il doit être anéanti, il est l'acteur lui-même. Choisir un acteur, c'est choisir le personnage, c'est-à-dire renoncer à toute idée de composition. L'acteur est un ready-made. C'est un acte essentiel où l'on abandonne l'idée que l'on s'en faisait. Je dirige sans idée, puisque les personnages sont alors devant moi. Je règle l'acteur sur ce qu'il peut, je veille sur lui. Je le regarde être le personnage et moi vouloir ce qu'il fait. Je lui donne forme, je le rectifie, je le dirige. Je ne dirige pas l'acteur, mais le personnage lui-même, le modifie, l'altère. Je travaille aujourd'hui sur les ressorts dramatiques du récit, cherchant davantage à le poser sur sa dynamique et ses rythmes. Et trouver un ressort sur lequel je pose une histoire et la développe. Le cinéma a à voir avec le dessin, art du tracé, de la captation du vrai. Tous deux sont des expressions primordiales, celles de la vie et de son mouvement. Qu'il s'agisse de la sculpture ou de la peinture, il n'y a que le dessin qui compte, disait Giacometti. Jamais son tracé n'est empreint de certitude, il est dans le bouillonnement, dans le mouvement même de la forme, son activité, sans concept. Où voyez-vous des lignes dans la nature? Il n'y a pas de lignes, mais des masses qui avancent ou qui reculent, dit-il. L'immobilité est l'œuvre de l'esprit, son invention. Elle est l'écueil du cinéma, sa vanité. Le corps, masse taiseuse et animée, est la matière du cinéma, son énergie. C'est l'inachèvement qui réside dans la nature. Le cinéma sait y retourner. En vérité, l'œil de la pensée ne commence d'avoir le regard pénétrant que quand la vision des yeux commence à perdre son acuité. Platon, Phédon. Giacometti a bien posé le problème de la proportion humaine, celle des rapports, dans la représentation, trouvant dans l'écart, déformation, l'expressive réponse, idem Rodin. Giacometti a beaucoup copié, comme meilleur moyen de rendre compte de ce qu'il voit. C'est en copiant qu'il sait un peu ce qu'il voit. Il y a ressemblance, puis force d'expression parce qu'il y a copie. La plupart des scènes que j'écris sont autant de copies de traits que j'ai vus et que je représente alors. Le réel est la source et le ressourcement de tout. Le travail du cinéaste est à neutraliser toutes les tentatives de domination ou d'emprise de chaque aspect et élément de la complexité de l'œuvre à la faveur d'une recherche éperdue de l'harmonie, c'est-à-dire de la fonte. Recherche d'au-delà, dans la répétition monotone du quotidien. Le cinéma ne sait rien dire, il fait, il agit, s'y borner. Filmer des vies humaines, attendre que ça vienne. Rendre au spectateur l'inachèvement du réel. Ne plus jamais croire à l'immobilité du monde, à un quelconque dénouement de l'esprit, vaincre la culture, réviser nos existences mouvantes, à la lumière fugace des projections cinématographiques, résider à nos nœuds, vivre l'illusion de la vie. Et voilà, on passe donc aux toutes dernières minutes de ce numéro 4 de L'encre et la lumière, consacré donc au texte et aux nouveautés littéraires sur le cinéma avec Élie.
Oui, je voudrais partager avec vous quelques livres fraîchement parus sur le cinéma que vous pourrez tous trouver à la librairie du premier film, donc la librairie de l'Institut Lumière. C'est d'abord Brian De Palma, entretien avec Samuel Blumenfeld et Laurent Vachaud, la réédition d'un ouvrage paru en 2001 qui était épuisé et qui n'avait jamais été révisé en tenant compte des films que De Palma a réalisés depuis. C'est donc chose faite sur un auteur à la fois majeur et discret du cinéma américain des 30 dernières années, fasciné par Hitchcock, qu'il a copié, repris et tordu dans tous les sens. Sa filmographie traverse tous les genres, le thriller avec Sœur de sang, Obsession, Pulsion, Blowout, Body Double, le film d'action, Scarface, Les Incorruptibles, L'Impasse, Mission Impossible, le fantastique, Carrie, Phantom of the Paradise, mais aussi le film de guerre, la SF et la comédie. Le livre est édité par Carlotta et contient des interviews mais aussi des photos de tournage ou d'autres photos plus intimes, ainsi que les 6 DVD de ses films importants. Deuxième ouvrage, La sagesse de la monteuse de films, de Noël Boisson, aux éditions Jean-Claude Béart. Là encore, le livre est paru en 2005 mais bénéficie d'une réédition. Il raconte de l'intérieur le métier de monteur sous la forme de petites anecdotes touchantes, amusantes, toujours fines, ou encore de considérations sur la création d'un film, l'état d'esprit d'un réalisateur, la difficulté et la joie d'être un intermittent du spectacle. Noël Boisson a débuté sa carrière de monteuse en 1970 avec L'An 01 de Jacques Doyon, a reçu le César du meilleur montage pour Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau, les films L'Ours et Deux frères de Jean-Jacques Hanau et Qu'est-ce qui fait courir David de Élie Chouraqui. Son livre est court et se lit très facilement, c'est La sagesse de la monteuse de films aux éditions Jean-Claude Béart. Et si vous voulez compléter la collection, n'hésitez pas à vous procurer La sagesse du chef opérateur, le livre de Philippe Rousselot. Troisième parution du mois, c'est Nos vies en série, de Sandra Laugier, professeure de philosophie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, édité chez Flammarion dans la collection Climat. Il s'agit donc d'un essai sous-titré « Philosophie et morale d'une culture populaire ». Pour Sandra Laugier, les séries sont désormais au cœur de la culture populaire et ont substitué au ressort traditionnel de la fiction « identification à des personnages, à des représentations du monde, ce qu'elle nomme une logique de l'attachement, un attachement à des individus singuliers, souvent des héroïnes, aux prises avec les épreuves de la vie ordinaire. À la place de la morale traditionnelle, les séries ont bâti un répertoire de situations, d'expériences et de formes de vie, jusqu'à composer une compétence du spectateur. C'est donc la thèse d'une conversion démocratique par les séries, que défend Sandra Laugier, pionnière en philosophie de l'étude des séries et du care en France. Nos vies en série de Sandra Laugier chez Flammarion. Enfin, pour terminer ce petit tour d'horizon, un autre essai, plus proprement cinématographique, encore que, chorégraphier le film, geste, cadre, montage, ouvrage collectif sous la direction de Teresa Faucon et de Caroline Sandmartin, aux éditions Mimesis Forme Filmique. Le livre étudie les relations entre les deux arts du temps et du mouvement, la danse et le cinéma, en essayant de dépasser les écrits qui existent en abondance sur le sujet. Il cherche à établir, je cite, « une analyse des gestes dans l'espace filmique, leur découpe spatiale et temporelle par la caméra et le montage, à l'aune du pensée chorégraphique contemporaine, en considérant un large corpus de films pris dans tous les cinémas, des débuts aux plus contemporains ». Le livre s'adresse plutôt aux spécialistes, mais peut intéresser à travers plusieurs entrées passionnantes, comme le chapitre « Déclinaison chorégraphique des gestes quotidiens » dans les films de Richard Serra, Andy Warhol et Chantal Akerman, par Xavier Berthe, ou encore « Sauter, danser, montrer la séquence musicale du film indien » par Amandine D'Azevedo. C'est donc chorégraphier le film « Gestes, cadre, montage » aux éditions Mimesis, forme filmique.
Et voilà, l'émission est déjà terminée. Merci de nous avoir écoutés, c'est toujours un vrai plaisir de réaliser cette émission. C'était Marie Douniac, Arthur Kramer, Elie Rofast et Mathilde Grasset dans le numéro 4 de L'Encre et la Lumière, en partenariat, toujours, avec l'Institut Lumière.
J'arrive pas à choisir. J'aime être la radio. J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer. On tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Tu vas voir, c'est magique. Un, deux...